بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي جزاك الله خير وأنت بالنور الله بريكومبانس. Si on peut allumer la lumière, s'il vous plaît, ce serait gentil. Ne serait-ce qu'une lumière. Jazakumullah khair. Chers frères en islam, nous continuons donc le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait reçu la visite de l'ange Jibril alayhi salam. Et l'ange Jibril alayhi salam, qui était sous l'apparence d'un homme, s'était adressé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en s'adressant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'adressait en fait à toute la umma dans le but de faire un rappel concernant les bases de l'islam, les bases du iman. Et la première question que l'ange Jibril alayhi salam a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est « Ya Muhammad, akhbirni an l'islam ». Ô Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, informe-moi, c'est quoi l'islam? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, al-islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah. L'islam, c'est avant tout attester qu'il n'y a pas d'autre Dieu par Allah et que Muhammad est son prophète, et le prophète d'Allah. Wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasum ramadan wa tahujj al-bayt in istata'ta ilayhi sabila. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité les cinq piliers de l'islam. On a vu que ces cinq piliers, ce sont les actions que l'homme, que le croyant accomplit. Et l'ange a répondu, sadaqta, tu as dit vrai. Ensuite, il a posé les questions concernant al-iman. Et c'est là que ça nous intéresse. Qu'est-ce que le iman? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa al-yawmil akhiri wa tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi. C'est-à-dire que la foi, le iman, c'est croire en Allah, le iman, c'est croire aux anges, le iman, c'est croire aux livres révélés par Allah, c'est de croire aux prophètes envoyés par Allah et également le jour dernier, le jugement dernier. Et enfin, le iman, c'est croire au destin, ce qui est bon et ce qui est moins bon, que tout vient de la part d'Allah Azza wa Jal. Donc voici les six branches de la foi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité dans la question, la réponse donc de la question de l'ange Jibril alayhi salam. Et la dernière fois, on avait expliqué al-iman bil-kutub, le fait de croire aux livres. On avait donné quelques détails sur les livres révélés par Allah Azza wa Jal, les livres qui ont été cités dans le Coran et d'autres livres qui ne sont pas cités dans le Coran. On avait vu également comment comprendre les versets qui se trouvent dans les autres livres révélés. On avait vu le principe de protection du Coran et la grande leçon qui se dégageait, entre autres, parmi les grandes leçons qui se dégageaient de cette croyance, c'est la fierté que nous avons un livre qui a été protégé par Allah Azza wa Jal. Le seul livre pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala a pris l'engagement de protection. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu la hafidhun. Alors que les autres livres étaient laissés aux soins des autorités, on pourrait dire religieuses, de leurs époques. Et on a vu que d'année en année, de génération en génération, il y a eu donc des falsifications, jusqu'à ce que certains livres maintenant se déclinent en plusieurs versions. Et les versions se contredisent, ou alors il y a des histoires relatées de prophètes, mais qui ne sont totalement pas, qui ne sont pas du tout adéquates à la personnalité, à l'honneur qu'Allah Azza wa Jal a fait à ses prophètes, et que n'importe quelle personne qui lit ces histoires voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas vrai, qui ne, subhanallah, quelque chose comme ma yaliq, ou quelque chose qui ne sied pas à l'identité et au karam, à l'honneur, le rang des anbiya alayhim salatu wassalam. Et donc, on avait dit également que quand quelqu'un a le Coran, quand un croyant, il sait que son livre est protégé par Allah Azza wa Jal, il ne doit surtout plus développer de complexe d'infériorité. Il ne doit pas penser que telle civilisation est supérieure, tel courant idéologique est supérieur, tel mouvement politique ou philosophique, peu importe, est supérieur à nous parce que nous, on est un peu pauvres, on n'a pas trop d'argent, on n'a pas trop de moyens. Bien au contraire, on a la parole d'Allah avec nous. on a la parole véridique du Créateur et c'est suffisant pour être un motif de fierté. Pas pour autant on va dénigrer les autres personnes, bien sûr que non. On n'est pas dans cette manière de voir les choses, mais être fier qu'on a le haq, la vérité. Et quand on est content d'avoir le haq, on avait expliqué ça la dernière fois, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? À propager, à faire la da'wa, à propager le haq aux personnes qui ne connaissent pas la vérité. D'où le verset qu'on lit souvent en clôture d'Ayat al-Kursi, « Allahu aliyyu alladhina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila an-nur ». Il y a des gens qui, mashallah, Allah les enlève de l'obscurité et les emmène vers la lumière. Toute personne qui n'avait pas iman, qui n'avait pas la foi, qui ne sont pas nés musulmans, et qui par la suite sont devenus musulmans, ils ont lu « La ilaha illallah Muhammad Rasulullah », c'est des gens qu'Allah a choisis. Ce sont des gens qu'Allah a aimés. Ce sont des gens pour lesquels Allah a voulu du bien. Les enlever de l'obscurité du kufr. Et quand on parle de dhulma, de l'obscurité, même si la personne était un grand patron, un grand chef d'entreprise, avec beaucoup d'argent, avec une vie, entre guillemets, épanouie. D'accord ? Quelqu'un qui était, entre guillemets, bien intégré. Il était peut-être bien intégré dans la société des makhloukat, mais n'était pas du tout intégré auprès du Khaliq. Il était bien intégré auprès de la société des makhloukat, des créatures d'Allah de ce dunya, mais auprès de son Khaliq, de son Créateur, il n'était pas intégré du tout. Bien au contraire, il était opposé à son Créateur. Et quand Allah donne la hidayah à une personne, c'est qu'Allah a voulu du bien. Le plus grand bien qu'Allah peut prédestiner à un être humain, c'est le iman, pour que la personne meure avec le iman et que la personne accède au Jannah. Alors, aujourd'hui on va, comme alhamdoulilah, la dernière fois on était un peu rapide, mashallah, on va essayer de développer al-iman bi rusul. Donc ça aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité, croire au prophète. Et là on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait pu dire, pour faire simple, que la foi c'est croire que je suis le prophète d'Allah. Ça il n'y a pas de doute, parce que ça il y a déjà dans an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, il y a déjà ça, que tu attestes qu'il n'y a pas d'autre dieu à part Allah et que Muhammad est le prophète d'Allah. Donc ça c'est fait, ça fait déjà partie de la foi, c'est une des premières choses qui avait été citée dans arkanul islam. Mais là le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit wa rusulihi, comme pour la dernière fois on avait dit wa kutubihi, kutub c'est le pluriel de kitab, rusul c'est le pluriel de rasul, d'accord, croit au prophète, donc c'est au pluriel. Et donc là, ça, subhanallah, ça nous fait comprendre que être musulman, je pense que chose que beaucoup de gens ne connaissent pas dans notre communauté, et surtout dans les autres communautés. Beaucoup de gens pensent que le musulman, des gens qui n'ont pas la foi, ils pensent que le musulman, c'est celui qui croit uniquement à son prophète Mahomet, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il ne faut jamais dire Mahomet, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et rien d'autre. Et qu'ils considèrent que les chrétiens, les juifs et tout, c'est n'importe quoi, c'est des inventions pures et simples. Là, wallah, jamais de la vie. Et ils considèrent que la Bible, la Torah, c'est n'importe quoi, c'est des livres écrits par je ne sais qui. Abadan, jamais de la vie. Au contraire, il n'y a pas plus grand héritier des prophéties que le musulman. Parce que tu ne seras jamais musulman tant que tu n'apporteras pas iman en Adam, alayhi salam, en Nuh, en Ibrahim, en Moussa, en Isa, Moïse, donc Jésus, tous ces prophètes qui ont été envoyés par Allah, si on n'a pas iman sur eux, ou alors on a un doute sur un de ces prophètes, on n'a pas eu iman de Rasul. Et si on n'a pas iman de Rasul, il manque une branche de la foi, on n'a pas iman. Si quelqu'un dit, je suis un fervent adorateur d'Allah, je suis la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais selon moi, Isa alayhi salam, c'est pas vrai ça, il n'a jamais existé, c'est n'importe quoi. Il peut faire autant de salat qu'il veut, il n'entrera jamais au paradis, parce qu'il ne croit pas à un prophète. D'autant plus à un prophète dont l'histoire est citée dans le Coran. Et ça on avait vu également la dernière fois, notre rapport maintenant plus proche avec le Coran, celui qui réfute, qui n'accepte pas même un verset du Coran, qui dit, ça c'est pas vrai, ou ça c'est pas possible, tout j'accepte sauf ça, khalas, n'accepte pas rien, pas besoin. Afatu'minuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd. Est-ce qu'on va dire que oui, on prend en ce sens, on prend cet verset et certains on ne croit pas? Dans ce cas, c'est comme si on n'a rien cru. Parce que croire au Coran, c'est croire à l'intégralité, depuis Alhamdou jusqu'à An-Nas, jusqu'au dernier verset, l'intégralité des verset révélé par Allah Azza wa Jalla. Donc pour revenir à ce qu'on disait, être croyant, c'est croire à la chaîne de prophéties, tous les prophètes qu'Allah Azza wa Jalla a envoyés sur terre. Et on avait demandé un petit exercice la dernière fois, Si vous vous rappelez, il avait dit de faire deux recherches. La première recherche, c'est combien de... Bon, ça c'est plus connu. Environ, combien de prophètes Allah Azza wa Jal a envoyé de ce dunya? Environ. Oui. Environ 124 000 prophètes. Et il y a le nom de combien de prophètes dans le Coran? 5? Ah bon, 25. On a affaire à des pros là. Hein? Il n'y a plus de suspense, il n'y a pas rien là. 25, d'accord, mashallah. Est-ce qu'on peut connaître le nom des 25 prophètes cités dans le Coran? Bismillah. Nuh alayhi salam, oui. Adam, Ibrahim, Moussa, Isa, Ismaïl, Daoud, Yaqub, Ayoub, Yahya, Younous, ça fait 11. Zakaria a déjà dit, non? Fini, fini. 11. Youssouf. Non, non. Il y a divergence sur Luqman. La majorité des savants sont d'avis que Luqman était un sage. Suleyman, barakallah fi. Ça fait 13 ans, hein, il n'y a pas de quoi être fier. On n'est même pas à la moitié. Haroun, oui. Hein? Isa déjà cité. Hein? Salih, oui. Ça fait 15. Houd. Comment? Houd. Wa ila adin akhahum Houda. Houd, ça fait 15 ou 16, je ne sais plus. 16 là? Allez, quand on cite Houd, on cite qui encore? Haroun. On a déjà dit Haroun, non? Quand on dit Houd, quelle histoire vient en général après Houd? Salih, oui ou non? On a dit ou on n'a pas dit? Ah d'accord. Wa ila thamud akhahum Salih. Et en général, après l'histoire de Salih alayhi salam, on a l'histoire de le grand péché de nos jours. Le grand péché d'actualité qui devient Lout alayhi salam. Ça fait 18, oui ou non? Après. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Hein? Khatam al-Nabiyyin, le dernier. Et on en a oublié encore, hein? Youssouf, on a dit Yaqub. Après, bon, là, vous avez dit des noms, peut-être que. J'ai oublié. Ishaq, on n'a pas dit, on dirait. Hein? Ishaq, ça fait 20. C'est déjà pas mal, mashallah. Idriss. Idriss. Ça fait 21. Hein? Non, Idriss, on n'a pas dit. Idriss, on n'a pas dit. Yaqub, on a dit. Il manque 4. On ne quitte pas le majlis tant qu'on ne connaît pas les 4. Yahya. Ishaq, on a dit. Shu'aib. 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 Wa ila madiana khahum. Shu'aib. Les grands commerçants. Shu'aib. Manque 3. Idriss, on vient de dire. Ayoub a été dit.
Ayoub.
Ayoub. Ah, Nuh, on a dit? Nous, on n'avait pas dit Nuh, non? Ah, si, si, le premier, oui. Nuh, oui. Hein? Yaqub, déjà dit. Khalas, c'est bon, Inch'Allah. Je pense qu'on a dû citer les 25, là. Et on a peut-être répété un petit peu, Mashallah. Maintenant, comme le dit le verset, Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wa nabiyyina min ba'di. Après, Allah Azza wa Jalla va citer l'histoire de beaucoup de les noms de beaucoup de prophètes. Et vous savez, très souvent, quand on cite ce verset, Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wa nabiyyina min ba'di wa awhayna ila, et là on cite les anbiya, quand on fait visiter la mosquée, hein, à des touristes ou à des gens de d'autres confessions, bien sûr, pas des musulmans, et qu'on cite les prophètes qu'Allah Azza wa Jalla mentionne dans le Coran, ces personnes restent ébahies. Dis comment? Vous croyez en Jésus? Vous croyez en Moïse? Vous aussi, vous croyez à Salomon, David, Jacob, et ainsi de suite. Bien sûr, l'idéal, c'est de citer en français, hein, pas en arabe pour eux, d'accord? Et donc, ils se disent que, subhanallah, il y a quand même une proximité, il y a quelque chose qui nous rapproche des musulmans. Et tout d'un coup, il y a comme des barrières, hein, qui se cassent, qui descendent, et il y a un rapprochement. Et effectivement, l'objectif, c'est d'arriver à un rapprochement. Et que les personnes se reconnaissent à travers nos croyances et qu'ils finissent par reconnaître idéalement l'histoire de Moussa alayhi salam de façon authentique comme c'est cité dans le Coran et l'histoire de Isa alayhi salam de façon authentique comme il est cité dans le Coran. Et Allah Azza wa Jal avait donc envoyé ses prophètes rusulan mubashirin wa mundhirin li alla yakuna linnas ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul, afin que chaque, en ce sens, chaque personne il puisse obtenir le message, il puisse obtenir le message, et que personne ne puisse un jour dire que personne n'est venu, on n'a jamais entendu parler de la shahada, de l'unicité d'Allah azza wa jal. D'où l'existence de ces 124 000 prophètes. Nous avons cette conviction qu'il n'y a pas un peuple, il n'y a pas un peuple qui n'a pas reçu la visite d'un prophète. Mais le Coran cite uniquement 25. Ce sont les plus grands des prophètes. Mais les autres, subhanallah, 124 000 enlevés 25, il vous reste 123 000, je ne sais pas combien. Mais ces prophètes-là avaient été envoyés dans toutes les contrées, dans différents endroits du monde, et à différentes époques. Maintenant, en toutes ces prophéties, il y a un point commun. Le point commun, c'est les aqaïd, les croyances. Tous les prophètes étaient envoyés de ce dunya pour inviter les gens vers l'unicité d'Allah. Ani'budullaha ma lakum min ilahin ghayruh. C'était le message de tous les anbiya, alayhim as-salatu was-salam. Faites l'adoration d'Allah, vous n'avez aucune divinité en dehors d'Allah azza wa jal. Maintenant, les différences entre les prophéties, parce que les shara'i', les sharia étaient différents d'un prophète à l'autre, c'était concernant les furu', concernant les actes d'adoration, la façon de faire l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Quoique il y a des actions qui reviennent, dites-moi, quelle est cette action? Ça, il faut qu'on le sache, ça. Quelle est cette action qui était présente dans toutes les shara'i', dans toutes les prophéties? Oui, le saum, entre autres. D'où le verset qu'on sait tout le temps de le mois de Ramadan, kama kutiba ala alladhina min qablikum, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux avant vous. Également, la salat revient dans l'histoire de Moussa alayhi salam, dans l'histoire de Isa alayhi salam. Maintenant, la façon de faire la salat, elle peut être différente de la façon que nous faisons à notre époque. Vous savez, j'avais vu une fois un texte de la Bible, du Injil donc, de lequel il est cité des signes de prosternation sur le front. Et certains savants disent que certainement, à l'origine de la subhanallah, le wahi qu'Allah Azza wa Jal avait accordé à Isa alayhi salam, le sijda existait. Et on a du mal de toute façon à penser que la prosternation n'existait pas avant. Parce que c'est la position où l'homme est le plus proche d'Allah. Quelle saveur allons-nous trouver dans la vie si on ne se prosterne pas devant Allah? Ça sert à quoi? Quelqu'un se réveille dimanche le matin, il se couche dimanche le soir, il ne s'est pas prosterné devant Allah. C'est une journée inutile. C'est une journée qui n'a aucun sens, qui n'a ni queue, ni tête, ni début, ni fin. C'est-à-dire que tu n'as pas à concrétiser le but pour lequel Allah t'a créé. Allah t'a créé pour te prosterner devant lui. « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِي يَعْبُدُونَ » d'une façon, d'une manière générale, de faire l'adoration d'Allah, le ibadah d'Allah Azza wa Jal. Et dans les actes d'adoration, la position où on est le plus proche d'Allah, c'est le sijda. Vraiment, mes chers frères, il faut apprécier le sijda. Enjoy your sijda. Il ne faut pas que quand on fait sijda, c'est comme vitement, on fait vite pour partir, on a d'autres choses à faire. Il faut vraiment que, et d'où l'importance de connaître les adhkars de la salat, de connaître les ma'ani de subhana, rabbi, on avait expliqué ça avant. Tout le paradoxe qu'il y a entre la position et le dhikr. Quand on dit subhana, rabbi, al-a'la, louange et pureté reviennent à Allah, al-a'la, c'est comme ça, bihisma, rabbi, al-a'la. Al-A'la, ça vient de Al-Ulu, celui qui est élevé le plus haut. Les savants disent, voyez le paradoxe, vous mettez l'endroit le plus bas du sol, la partie la plus haute de votre corps, c'est-à-dire le front, il se met à l'endroit le plus bas, au niveau de votre pied, au niveau du sol, on se rabaisse et on dit, oh Allah, tu es le plus haut. C'est vraiment se mettre au ras du sol et reconnaître la grandeur, la beauté, subhanallah, azamatullah. Ça, c'est toute la profondeur qu'il y a de sijda. Et donc là, tu fais les louanges, tu dis subhanallah, rabbi al-a'la. Et on ne s'arrête pas, subhanallah, rabbi al-a'la. Vous avez expliqué ça, si vous vous rappelez, dans la préparation des qiyamul layl, comment préparer les nuits du destin en adoration. On avait dit qu'il y a beaucoup de adhkar pour les sijda. Nous, on se limite à subhana rabbi al-a'la, c'est le plus facile. Maintenant, quelqu'un, il fait qiyamul layl, par exemple. Qiyamul layl, c'est-à-dire tahajjud. Il ne va pas lire que subhana rabbi al-a'la. Il va lire d'autres azkar. Subhanallah, wa bihamdihi, subhanallah al-azim, subuhun quddusun rabbul malaikati wal ruh. Et chaque dhikr qu'il va lire, il va essayer de voir qu'est-ce que ça veut dire. Et quand tu lis ça en prosternation devant Allah, Allahu Akbar, ton cœur doit pétiller. Ton cœur doit pétiller. Et tu dois trouver ce moment-là comme le plus beau moment de ta vie. C'est vraiment dans cette position, on ressent une tranquillité du cœur. C'est comme si que dans cette position, pendant quelques secondes, on oublie le dunya. On oublie les problèmes du dunya. Parce qu'on est proche d'Allah. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris soin de dire qu'il n'y a pas une position, comme on l'a dit tout à l'heure, où le serviteur est aussi proche d'Allah que durant le sijda, c'est que vraiment il y a une proximité qui se lie. Et quand on a la proximité avec Allah, Rabbul Izzah, c'est que vraiment dans cette position, on trouve l'apaisement du cœur et on trouve toutes les ressources spirituelles pour augmenter le iman et pour ressentir la grandeur d'Allah Azza wa Jal. D'où l'importance de savoir ce qu'on lit dans la salah et d'apprécier chaque position de la salah. Donc le sijda, la salah d'une manière générale, ça fait partie des actes d'adoration qu'on trouvait dans tous les shara'is de toutes les religions qu'Allah Azza wa Jal avait révélées. Parmi les comportements, on va dire dans le domaine des akhlaq, quel est ce trait de caractère du croyant qu'on retrouvait dans toutes les religions? Entre autres, quelque chose de très ciblé. On va le dire, birrul walidain, l'obéissance envers les parents. Ça, on trouvait dans les paroles de Isa alayhi salam, et c'est un point, les savants disent, qu'on retrouvait dans toutes les religions. Parce que ça fait partie de la fitra, de l'innéité. Il n'y a pas besoin d'être pieux pour être proche de ses parents. Il n'y a pas besoin d'être un grand savant, il n'y a pas besoin d'être un fundi pour connaître la valeur de ses parents. N'importe quel être humain, normalement, connaît la valeur de ses parents. Parfois, on voit même des gens qui n'ont pas la ilaha illallah de leur cœur, ils sont proches de leurs parents, ils font leur khidma. Maintenant, que dire si nous, musulmans, on ne se préoccupe pas de nos parents. Et quand on dit parents, encore une fois, on donne la définition, quand on dit parents, c'est quel que soit notre âge. C'est pas que quand je suis mineur, j'appelle ces personnes-là parents, et quand je suis majeur, ils deviennent des vieux, le vieux ou la vieille, et on ne les considère plus comme parents. Là, wallah, tant qu'ils sont vivants, même si moi j'ai 20, 30, 40 ans, je suis marié, j'ai des enfants moi-même, ils restent mes parents. Donc ça c'est un comportement, et alhamdoulilah, ça montre que ce dîn est un dîn de haqq, qui invite vers le bon sens. L'obéissance envers les parents, l'ihsan, ilal walidain, ça fait partie des akhlaq shamila mushtarika, des comportements qui ont existé dans toutes les manahij, dans toutes les révélations qu'Allah Azza wa Jal a envoyées sur les différents prophètes. Un exemple, parmi les choses haram, la plupart des choses haram que nous retrouvons dans notre umma existaient, étaient déjà haram dans les autres communautés. Mais on ne citera qu'un seul péché qui était unanimement condamné dans toutes les religions. Le zina. Il y en a beaucoup d'autres. Moi, j'ai choisi le zina parce que, vous voyez, pour qu'on comprenne comment notre société, elle est paradoxale, elle va à l'encontre de l'histoire de l'humanité. Dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire des prophéties, l'adultère a toujours été haram. L'homosexualité a toujours été haram. Le peuple de Lot, alayhi salam, n'a-t-il pas subi le pire des châtiments des ahles dunya? Il n'y a pas eu châtiment plus douloureux que celui du peuple de Lot, alayhi salam, par rapport à ce péché. Maintenant, nous vivons, Allah Musta'an, dans une époque où ce qui a été considéré comme interdit dans l'histoire des prophéties devient quelque chose de normal, devient quelque chose d'acceptable et même, on va dire, c'est ce qui va distinguer l'homme moderne. L'homme moderne sera l'homme qui sera bi. C'est-à-dire quoi, bi? Il bec les deux côtés. D'accord? I bec de deux côtés, à droite et à gauche, avec les messieurs et les dames. C'est-à-dire, quand quelqu'un, il est bi, c'est... Ouais, lui, c'est quelqu'un. Lui, il a compris, il est fashion. Lui, il est... Khalas, il a compris, c'est pas le vieux Bakoko qui reste avec son madame jusqu'à ce qu'il meure. Non, lui, il est bi, il a compris, lui. Lui, il est... Il voit loin, a'oudhu billah. Donc, subhanallah, en analysant les dépravations de notre société, on se rend compte que non seulement ça va à l'encontre de notre dîn, de notre religion, de l'islam, ça va à l'encontre du judaïsme, ça va à l'encontre du christianisme, ça va à l'encontre du message apporté par tous les prophètes d'Allah, par tous les envoyés d'Allah, alayhim assalatu wassalam. Donc voilà quelques indications concernant les prophètes. Maintenant, pareil, quand on retrouve, par exemple, une action qui a été accomplie par un autre prophète, donc une communauté avant nous, est-ce qu'on doit mettre en pratique ou alors ne pas mettre en pratique? Si par exemple, dans notre din, il y a une autre information concernant la même action, ben on doit suivre les versets concernant notre religion. Maintenant, il y a des cas où le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait cité des actions accomplies par ses frères prophètes. Ça s'est oublié de dire que tous les prophètes sont des frères. Tous les prophètes, alayhi salatu wa salam, sont des frères. Et le prophète avait dit que wa afdalu siyami siyamu akhi Daoud. Le meilleur des jeûnes, des carèmes, c'est le jeûne de mon frère Daoud, David, alayhi salam. Kana yasumu yawman wa yuftiru yawman. Il jeûnait un jour sur deux. Un jour il jeûnait, un jour il ne jeûnait pas. Donc, si quelqu'un il prend cet exemple, il peut le mettre en pratique. Ça, mashallah, c'est déjà... C'est vraiment un haut niveau. Hada. Maintenant, il y a une petite question. Il y a des gens parfois qui se demandent, oui, mais voyez tel peuple indigène en Amazonie, ou alors je ne sais pas dans quelle région du monde, ou au pôle Nord, les Esquimaux, je ne sais pas quoi. Est-ce qu'on peut dire qu'eux aussi, ils ont reçu le message d'Allah? Ils sont éloignés, ils ne connaissent rien. Comment est-ce qu'Allah Azza wa Jalla peut les juger? Alors, premièrement, il ne faut surtout pas nous substituer au jugement d'Allah. Parce que le jugement d'Allah, c'est le jugement du Créateur qui est parfait. Et nous essayons d'apporter un jugement qui provient d'une créature et qui n'est donc pas parfaite et qui ne connaît pas les tenants, les aboutissants, qui n'a pas la hikmah d'Allah Azza wa Jal. Il n'y a pas plus grand exemple pour comprendre la sagesse d'Allah et le fait qu'Allah Azza wa Jal, hein, il ne dénigre personne. Quand on voit l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib, qui n'a pas accepté le tawhid, son propre oncle qui pourtant prenait sa défense auprès des Quraysh, mais jusqu'au dernier moment de sa vie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'invitait, « Oh mon oncle, lis la ilaha illallah », Allah n'avait pas écrit la guidée pour lui. Quand on voit l'histoire de Lut alayhi sallam, et que dans la famille de Lut alayhi sallam, sa propre épouse, femme, n'a pas accepté son message et elle était donc détruite avec les autres personnes, on voit qu'il y a là une sagesse d'Allah Azza wa Jal. Quand on voit par rapport à Ibrahim alayhi salam, quel proche d'Ibrahim alayhi salam n'a pas accepté le tawhid? Son père qui s'appelait Azar. Ibrahim alayhi salam, son propre papa, n'a pas accepté le tawhid d'Allah, l'unicité d'Allah. Quand on voit Nuh alayhi salam, Noé, qui c'est qui n'a pas accepté le tawhid d'Allah? Son propre fils. Et il a fait usage de la logique. L'esprit, comme on dit ici, l'esprit cartésien. Il essaie de comprendre la logique, les sciences, tout ce qui est cohérent. Il dit, Kala, il dit, ah bon, de lui, ça a monté alors. Attends, mais réfléchis un coup, va. Kala, ça, ah oui, il a jabali. Yarsimuni min alma. Ça, c'est une loi physique, ça. Quand l'eau atteint un certain degré, un certain niveau, pardon, plus vous êtes élevé, ben, l'eau n'atteint pas. Il faut vraiment qu'il y ait une même quantité d'eau partout pour que le niveau augmente. Donc, je vais aller au sommet de la montagne. Si une montagne fait 1000 mètres, 2000 mètres, 3000 mètres, on n'a jamais vu une inondation de 2000, 3000 mètres. Donc, il a fait usage de la logique. Ah bon? Le châtiment de ton Dieu va être terrible. Il y aura une inondation, il y aura un déluge, d'accord. Mais moi, je suis malin, moi. Je vais échapper au châtiment de ton Seigneur, et donc je vais échapper à sa punition, ce qu'il avait prédestiné. Malheureusement, il n'avait pas réalisé, et donc les eaux l'ont emporté. Donc nous voyons que dans l'histoire des Anbiya, alayhi salatu wassalam, ils ont été éprouvés par des proches qui n'ont pas accepté le message d'Allah Azza wa Jal. Et donc, si dans des contrées éloignées, il y a des gens qui n'ont pas la ilaha illallah, on ne doit pas voir cela comme une injustice. Premièrement. Deuxièmement, on doit être conscient que, comme on l'a dit tout à l'heure, 124 000 prophètes, il y a un verset, bon, on a tellement de versets écrits là, que je ne repère pas le verset adéquat, de lequel dit que pour toute communauté, pour toutes les populations, chaque peuple, Allah Azza wa Jal avait envoyé un prophète. Donc, toutes les populations à la base avaient reçu le message d'Allah Azza wa Jal. Et troisième réponse, et c'est là que c'est une réponse un peu plus participative qui nous implique, c'est le amana, le dépôt spécifique à la umma du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'obligation de d'ordonner le bien et d'interdire le mal. D'où la qualification de khayra umma, kuntum khayra ummatin ukhrijat li wa ki linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dire que ça c'est une spécificité de cette umma d'aller vers les gens pour les amener vers le tawhid. En venant à la madrasa à 16h aujourd'hui, passé près du cimetière, il y avait un enterrement. Quelqu'un m'a demandé, c'est quoi ça, c'est un enterrement? Je dis, ya akhi, c'est un enterrement, c'est pas une naissance. En général, dans un cimetière, on enterre. Hein, on fait pas la fête. Donc, je dis que voilà cette personne qui est en train d'être enterrée, nous deux, on a une responsabilité par rapport à cette personne. Que c'est quelqu'un qui a quitté le dunya sans la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Et on a donc une part de responsabilité auprès d'Allah Azza wa Jal. C'était notre devoir d'essayer de trouver, subhanallah, les moyens possibles pour propager le message de notre dîn, l'unicité d'Allah, l'adoration d'Allah et shahadat anna Muhammadar Rasulullah. Donc voilà, en résumé, trois réponses concrètes quand il y a des shubha, hein, il y a des waswasa, des insufflations de shaytan concernant des gens qui n'auraient pas accepté l'islam. Maintenant, pour conclure, parce qu'on a dit, on peut pas développer iman bi rusul parce que c'est tout un chapitre ça, d'accord? Mais on veut voir vraiment les points les plus importants. Et pour conclure, donc, on vous avait demandé également de rechercher deux événements importants de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui prouvent la supériorité de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur les autres prophètes et qui prouvent également que tous les prophètes le reconnaissent comme étant le meilleur des Anbiya. Quels sont ces deux événements? Le Mi'raj. Qu'est-ce qui s'est passé au Mi'raj? Le Mi'raj est composé de deux parties. Al-Isra ou Al-Mi'raj. Al-Isra, c'est de Makkah vers Baytul Maqdis, qu'Allah nous accorde la possibilité de faire la salat un jour de Baytul Maqdis. Allahumma amin. Et le Mi'raj, c'est de Baytul Maqdis jusqu'aux cieux. Et donc, lors du Isra, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était de la mosquée sainte de Jérusalem et à cet endroit, Allah azza wa jalla avait envoyé l'intégralité des prophètes qui étaient là. Et ils ont eu des conversations. Ils ont parlé de différentes choses. Dans les hadiths, entre autres, il est cité qu'ils ont discuté de la fin des temps. Et il y a eu donc une discussion entre Moussa, Isa et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui connaissait le plus, c'était notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la science qu'Allah lui avait accordée et que les autres prophètes n'avaient pas eu. Et juste après lui, qui connaissait beaucoup de choses? Le prophète Isa alayhi salam, concernant donc la fin des temps. Et ensuite, donc, ils ont fait la salah et à l'unanimité, ils ont choisi le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour être leur imam. Et ça, c'est un motif de fierté de plus. Par rapport aux autres communautés, nous sommes conscients qu'Allah nous a choisis pour faire partie de la communauté qui suit le meilleur des hommes, le meilleur des prophètes, l'homme le plus aimé par Allah. C'est lui notre prophète. Et que tous les autres prophètes le reconnaissent comme étant le meilleur des hommes, le meilleur parmi eux. Dans certaines sources, il dit également que d'autres prophètes avaient souhaité, avaient demandé ce doua, qu'il fasse partie un jour de cette communauté. Preuve de la supériorité du prophète. Donc être fier qu'Allah nous a accordé le meilleur des livres et le seul livre qui est authentique et protégé jusqu'au Qiyam. Et être fier qu'Allah nous a accordé le meilleur des prophètes. Maintenant, il y a un deuxième événement qui n'a pas lieu forcément dans ce dunya. On va dire c'est plutôt dans le akhira. Autre événement qui montre là aussi la supériorité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Shafa'a, hadith al-shafa'a. Shafa'a également, c'est toute une histoire, c'est un bab, un aqida, c'est un chapitre. Il y a différents shafa'a. Là, on parle du shafa'a am, le premier shafa'a. Ensuite, il y a différents shafa'a spécifiques aux croyances, etc., etc. Mais là, on parle du premier shafa'a après la première étape de l'au-delà, qui est le mahshar, la résurrection. les gens vont rester, selon certaines sources, 40 années debout. Hufatan, uratan, ghurla, sans vêtements, sans chaussures, et ainsi de suite. Avec le soleil, hein, ça c'est dans Iman Biliyom al-Akhir, ça vient après, le soleil au-dessus des têtes, et avec donc la transpiration en fonction des péchés. Et après nombre d'années debout, sans, et il dit que pendant ces 40 années, Allah Azza wa Jal n'adressera même pas un regard à la terre de Mahshar, aux personnes qui sont ressuscitées. Et là, il y a des gens qui vont demander l'intercession à différents prophètes. Ils vont voir Adam alayhi salam, ils vont voir Nuh, ils vont voir Ibrahim, Moussa, Isa, ainsi de suite. Et selon certains hadiths, il est dit que la plupart des prophètes, ils vont citer une erreur qu'ils avaient accomplie de ce dunya. Ibrahim alayhi salam va dire que de ce dunya, une fois j'avais menti. Et donc j'ai peur qu'Allah me punisse. Comment est-ce que je peux aller demander l'intercession à Allah Azza wa Jal alors que j'avais désobéi une fois? Moussa alayhi salam va citer également lorsqu'il avait tué une personne. Et les savants disent qu'effectivement il avait donné une claque à une personne mais sans avoir l'intention de tuer. Et Allah Azza wa Jal de le Coran l'a pardonné. Les versets prouvent qu'il avait pardonné. Pareil pour Ibrahim alayhi salam. Il avait menti pour pouvoir rester auprès des idoles. Qala inni saqim. Pour rester auprès des idoles, pour casser les idoles. Bref, là c'est une autre leçon encore retenue. Les savants disent que, vous voyez, une erreur accomplie par un prophète, ils ne peuvent pas l'oublier. Ils ont honte de se présenter devant Allah Azza wa Jal avec cette erreur. Maintenant, nous, Allah Musta'an, qu'Allah nous pardonne le nombre de péchés, d'erreurs que nous cumulons matin et soir, et nous nous croyons comme étant les meilleurs des croyants, et quel visage on va présenter devant Allah Rabbul Izza, Allah le jour de Qiyam. Et donc, à la fin, le prophète, alayhi salatu wa salam, le seul qui ne citera pas de péché, c'est non, avant lui, Isa alayhi salam. Et Isa alayhi salam va demander aux personnes d'aller voir Muhammad sallallahu alayhi wa salam, et ils vont voir le prophète sallallahu alayhi wa salam, et c'est le seul qui acceptera de faire l'intercession. Et là, il y a le hadith qui est magnifique, c'est d'une grande beauté, avec des termes en arabe d'une Ajib, d'un niveau linguistique extraordinaire, d'une concordance magnifique. Hein, ça, c'est vraiment les paroles prophétiques dans lesquelles il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va se prosterner devant le trône d'Allah Azza wa Jal et il va invoquer Allah par des mahamid, par des louanges qu'Allah mettra dans son cœur à ce moment, que personne, aucune créature ne connaît. Et là, Allah Azza wa Jal va dire, « Ya Muhammad, voilà, maintenant lève-toi, wa shfa', tu shafa', sal, tu'ata. » Intercède au Mohammed. Oh, Mohammed, lève-toi. Intercède. Nous accordons ton intercession. Nous acceptons, pardon, ton intercession. Seul tu'ata. Demande. Nous t'accordons. Et quand on dit seul tu'ata, c'est la réponse directe. Ajib. Et le professeur d'Allah va demander à Allah Azza wa Jal de soulager le fardeau sur les gens du Mahshar. Et là, c'est pas pour que les gens aillent au paradis. Non, c'est pour qu'il y ait la prochaine étape, pour que le jugement commence. Parce que là, on est à une situation tellement critique que des gens vont demander, oh Allah, irhamni walau ilannar. Oh Allah, aie pitié de nous. Envoie-nous vers le Jahannam. Mais ne nous laisse pas dans cette situation de Mahshar. Donc, qu'Allah nous protège. Dans cet événement aussi, nous voyons là, supériorité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a vu de ce dunya et on voit de l'au-delà que tous les prophètes reconnaissent que c'est le seul qui peut aller devant le trône d'Allah, se prosterner et demander à Allah Azza wa Jal l'intercession. Donc notre croyance sur tous les prophètes, c'est croire exactement ce qui a été révélé dans le Coran concernant leur biographie, leur vie, le sacrifice qu'ils ont fait et être conscient que ce sont là les meilleurs des hommes. Maintenant je vous pose une question. Lequel parmi ces deux personnes ont un rang supérieur? Le prophète, on va dire, Houd, alayhi salam, ou Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu. Sans le moindre doute, les prophètes ont un rang supérieur. D'accord? Ensuite, après les Anbiya, alayhi salat wa salam, vient les Sahaba, radiallahu alayhi majma'in, et en premier lieu, bien sûr, Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu. Donc, être conscient que ce sont les meilleurs des créatures d'Allah. D'où le verset, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ. Donc, ça c'est le plus haut degré, c'est le jour des comptes, être parmi les prophètes والصديقين les véridiques والشهداء les martyrs والصالحين et les gens pieux. Donc il y a différentes étapes, mais la première étape qui est citée, ce sont les annabiyyin, les prophètes d'Allah azza wa jalla, parce que ce sont des gens qui ont été choisis par Allah subhanahu wa ta'ala. Hada. Et notre relation plus personnelle, ça c'est un autre chapitre à développer, que ce n'est pas le but de l'intervention. Notre relation personnelle avec notre prophète maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un amour illimité. Le prophète alayhi salatu wa sallam avait dit « La yu'minu ahadukum » Personne parmi vous n'aura vraiment la foi « Hatta akuna habba ilayhi » Tant qu'il ne m'aimera pas plus que « Hatta akuna habba ilayhi min armin » Si quelqu'un complète le hadith, Abihi, Allah Akbar, à un certain moment on est un petit peu fatigué. La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilayhi. Non, il y a autre chose. Que lui-même. Non, d'abord que ses parents, que ses proches, ses enfants, et que lui-même. Pour compléter, pas que lui-même. Les savants disent que lui-même c'est quoi? C'est faire passer le droit du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant ce que nous on a envie de faire. Choisir la sunnah, suivre le mode de vie prophétique plutôt que de faire quelque chose qui nous fait plaisir, quelque chose qui nous procurera satisfaction. Ça c'est Kamal al-Muhabba. Et comment est-ce qu'on peut manifester notre amour pour Allah? Beaucoup de gens disent que oui, moi j'aime Allah, moi. Il y a des gens qui font rien, disent, là-dedans ils comptent. Il a l'amour d'Allah dans le cœur. Moi j'aime mon Dieu, mon Seigneur, je l'aime et Allah seul sait que je l'aime. Basse, t'as pas à me juger. Oui, on n'a pas à te juger. Personne n'a jugé quiconque, seulement il y a alam. Il y a des preuves, il y a des signes qui prouvent qu'on aime Allah, oui ou non. Parce qu'Allah dans le Coran, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ Si vraiment vous aimez Allah, فَاتَّبِعُونِي Suivez-moi. C'est-à-dire suivez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la preuve la plus évidente qu'une personne aime Allah, Rabbul Izzah, c'est qu'il suit le mode de vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, si cette personne est à l'extrême, l'autre extrême, hein, l'extrême est de la sunna, il ne suit pas du tout la sunna, il pourra dire ce qu'il veut, tous les discours, c'est quelqu'un qui n'a pas l'amour d'Allah dans son cœur. Parce que, la, subhanallah, le comportement, le mode de vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le condensé de ce qu'Allah Rabbul Izzah aime. Et c'est comme ça qu'Allah Azza wa Jal attend de nous que nous vivons, que nous prenons donc comme modèle, comme mode de vie. Donc ce qu'on peut retenir, c'est encore une fois la fierté de faire partie de la Umma, d'avoir le meilleur des prophètes, reconnu par tous les prophètes pour être le meilleur parmi eux, tant de ce dunya que dans l'au-delà, le jour de Qiyama. Également, avoir un amour illimité pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui se manifestera par la sunnah, le fait de suivre sa sunnah dans les paroles, dans les gestes, dans les faits, dans le comportement, dans les manières d'adorer Allah azza wa jal. Donc, et le plus, ce qui, subhanallah, et nous voyons la continuité qu'il y a de le din, et on dit on suit la sunnah. Quelqu'un dit mais je suis la sunnah ou je suis le Coran? Il n'y a pas des questions ambiguës comme ça. De toute façon, tu suis la sunnah, tu as suivi le Coran. Parce que kana khuluquhu al-Quran. Le comportement du Prophète, c'était le Coran. Le Prophète, c'est celui qui avait mis le Coran en pratique dans sa vie.